ירזמי השם עליכם תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. Nous poursuivons notre étude de la tefila du matin. Nous sommes dans les 13 principes de déduction, la baraita de Rabbi Ishmael. Nous sommes arrivés au quatrième principe. Le principe de la généralisation suivi d'un cas particulier que nous appelons klal ou prat. Klal, c'est la généralisation, l'ensemble, et le détail, un cas particulier. Exemple, premier exemple. Le verset dit, parle aux enfants d'Israël, un homme qui approchera un sacrifice à Hachem, des animaux, du gros bétail, du mini bétail, vous offrirez vos sacrifices. De quoi on offre les sacrifices? Du gros bétail, des animaux. C'est quoi les animaux? C'est un klal, tous les animaux. Après on dit le gros bétail, le menu bétail, donc on précise. Quand le verset dit les animaux, il généralise, kalal, il englobe tous les animaux. Même les animaux a priori, qui ne sont pas domestiques, comme les hayotes, le chèvre, le cerf, le chevreuil, le daim. Puis il poursuit, il dit du gros bétail, du menu bétail. C'est prat, il a désigné des exemples. Il réduit, le prat vient réduire l'ensemble. Celui-ci n'est composé, conclusion, de ce principe-là, klal ou prat, le klal, l'ensemble, n'est composé que de ce qui ressemble aux exemples cités. Donc on ne pourra apporter comme sacrifice que des animaux qui ressemblent au gros bétail ou au petit bétail, aux exemples cités. Deuxième exemple, Rachid donne l'exemple du verset dans Devarim. Tu ne vêtiras pas d'étoffe mixte. L'otilba sha'atnes. Donc, tout, il généralise. Il dit, kalal. Sha'atnes, il n'a pas dit de quoi il s'agit. De quel mélange. Ça peut être de n'importe quel mélange. On nous a pas dit ici de quoi est fait le mélange. Donc, si on met un vêtement de laine, il faut qu'il soit entièrement en laine. Si on met un vêtement en coton, il faut qu'il soit entièrement en coton, etc. Alors, il n'a pas précisé de quel mélange il s'agit. Alors, ce verset englobe toutes les espèces, coton, soie, etc. Puis, le verset, il précise. De la laine, semeropistimiadav. Tu n'as pas le droit de mettre de la laine et du lin. Donc là, il a réduit l'interdit. L'ensemble n'est constitué que des exemples cités. L'interdiction de Sha'atnez ne concerne que la laine et le lin. Cinquième principe, de le détail qui précède la généralité, ça c'est à l'envers, prat ou klal. D'abord la Torah elle a cité un exemple et puis elle met un ensemble. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la généralité, l'ensemble, vient ajouter sur les exemples cités et élargit le champ d'application de cette halakha. Premier exemple, il est dit que si quelqu'un donne en garde à un autre, un âne, un bœuf ou une pièce de menu bétail, un animal quelconque, et que celui-ci meurt, l'animal, ou soit estropié, ou pris de force, sans que personne l'ait vu, alors un serment solennel intervient entre les parties. Donc celui qui a gardé le chômeur, il doit jurer qu'il n'a pas fauté, qu'il l'a bien gardé. Comme quoi, il doit jurer comme quoi l'accusé n'a pas porté atteinte à la chose de son prochain. Le propriétaire acceptera ce serment et l'autre ne paiera pas. Il est hayav de shvoa, de jurer, et il est pato. Il jure qu'il n'a pas fait une mauvaise garde. De qui s'agit-il? Il s'agit de shomer sachar. On parle ici de quelqu'un qui garde et qui est payé pour la garde. Et qu'on lui confie une bête qui va être volée. Elle peut être volée. Alors il devra rembourser. S'il s'agit d'un gardien qui est payé, shomer sachar, et qu'on lui confie une bête qui va être volée, il devra rembourser. En cas de force majeure, comme la perte de la bête, ou la mort naturelle, donc il est pour rien, la cassure d'un membre, ou la capture par les brigands, le gardien doit payer. Le gardien, qui est chômeur sachar, il doit jurer qu'il n'a pas été négligent, et qu'il n'a pas utilisé la bête pour son propre usage personnel. Alors il sera quitte. Le verset dit un âne, un taureau et un mouton. Donc c'est les détails, prat. Mais le verset continue, il dit tout animal, klal. Alors est-ce que un chameau, Oui, aussi un chameau. Donc, puisqu'il a, il a. Donc, on a cité trois exemples, et après, on a mis le clan. Donc, ce clan-là, cet ensemble, il vient rajouter sur les exemples cités. Klal, prat ou klal, en lecha, kalal et akol. Prat, donc il a cité des exemples, après il a généralisé, donc la généralisation vient ajouter sur les détails cités. Deuxième exemple, au sujet de la mitzvah de rendre à son propriétaire l'objet et la bête qu'il a perdu, ce qu'on appelle Hashavat Aveda. Le verset dit, Lo tirei hamor, shor re'acha o seyo, nidahim, veit alam tamer. Tu les vois et tu fais comme si tu les as ignorés. Achève tes shivim l'achicha. Tu dois les rapporter à ton frère. Et si, veim rahok et velo yadato, et si tu ne sais pas où il est, qui il est, tu ne le connais pas. Alors, remarquez, tu prends l'animal, tu le mets chez toi, tu t'occupes de lui, et jusqu'au moment où tu pourras le lui rendre. Il sera avec toi jusqu'à que ton frère te le réclame et tu lui rendras. Alors, le pasuk dit, ainsi à carte, assez la hamoro, le simlato, etc. Tu feras pour l'âne, pour ses vêtements, pour toute paire de ton frère. Le verset dit, tu ne verras pas le taureau ou le mouton. Donc, prat, il a détaillé. Mais s'agit-il uniquement du taureau ou du mouton? Le verset poursuit en disant, toute paire de ton frère. Il généralise et élargit le champ d'application de cette mitzvah à toutes les bêtes. Donc nous avons conclu ici le cinquième principe. Sixième principe, klal ou prat ou klal. L'ensemble, après on met un exemple, le prat, et après on remet encore un ensemble. Quand il y a une généralisation suivie d'un cas particulier et d'une deuxième généralisation, le cas particulier sert de référence. Nous avons vu plus haut que ce principe de généralité suivi de l'exemple, l'ensemble n'est composé que des cas cités. Ici, il y a une deuxième généralité qui vient élargir l'application de cette loi. Ne sont admis dans cet ensemble que les cas qui ressemblent parfaitement à l'exemple cité. Premier exemple, au sujet du Maaser Sheni, sur les récoltes de céréales, de vignes et d'olives, nous devons effectuer les prélèvements suivants. Alors toujours, on prélève Trouma Gdola, 1/50 pour le Kohen. Maaser Rishon, 1/10 pour le Lévi. Maaser Sheni, 1/10 de ce qui reste, et on le monte à Jérusalem pour le consommer. Si on ne peut pas transporter ces fruits, alors on les rachète sur de l'argent. Vetzarta Kesef, Ve'alita Ela Makom Hashem, Harashem Elohecha. Donc tu prends l'argent avec toi, et quand tu montes au pèlerinage, tu l'emmènes avec toi. Mais quand tu rachètes, tu ajoutes un cinquième toujours. Le verset dit, et quand le chemin sera long, kil hakim mecha derer. Et tu peux, le kilo tuchal seto, tu pourras pas porter les fruits. Si lui, Blinara, il a une très grande récolte, et il va porter, il lui faut un camion. Tu le donneras pour de l'argent, tu serreras dans ta main, sarta kesebiadera, tu iras vers le Beit HaMikdash. Tu donneras l'argent pour tout ce que tu désiras. Cet argent-là, il peut être utilisé pour tout ce que tu veux. Pour le gros bétail, le menu bétail, le vin, l'alcool, pour tout ce que tu désiras. Avec ça, on faisait les korbanot shlamim, etc. Alors que peut-on acheter avec l'argent du Maaser Sheni? Quand le verset dit, pour tout ce que tu désiras, il généralise à toute chose. Alors, mais je peux acheter même des chaussures, un costume, kalal. Puis le verset cite des exemples. Le gros bétail, le menu bétail, le vin, l'alcool. Il a détaillé, donc c'est plus les chaussures. Il a réduit à ces trois choses-là. Peut-on acheter autre chose que les exemples cités? Le verset poursuit et ajoute, et pour tout ce que tu désireras. À nouveau, il généralise. C'est-à-dire que Hazar avec Kalal, il est venu, il l'a élargi. Oui, il est possible d'acheter autre chose qui n'est pas cité. Selon quels critères? Les exemples cités font référence à tout ce qui leur ressemble pourra être inclus. Quelles sont leurs caractéristiques? Ce sont des sous-produits du sol. Et ils sont comestibles. De même, la dernière généralisation qui dit « tout ce que tu désiras ne peut s'élargir qu'aux produits qui possèdent les mêmes caractéristiques. » Alors imaginons, aujourd'hui, on monte au Beit HaMikdash, alors on achète de la viande. Donc on fait des korbanot, on mange de la viande, on boit du vin, on boit de l'alcool, mange des fruits. Peut-on manger du chocolat? Alors oui, le chocolat, et il s'est pas marqué dans le passouk. Ah oui, le chocolat, oui. Est-ce que je veux boire du café avec ça? Oui, le café vient de la terre. Donc ça ressemble. Donc il est chahora de ce hasard avec halal, il vient ajouter le chocolat. On fait en dessert, il va se faire un plaisir. Dégustation de chocolat de qualité. Et il veut boire un bon café. Le passouk dit, Chachamim vient inclure les champignons, les truffes, l'eau, le sel, ne sont pas considérés comme des fruits et des sous-produits de la terre, attention. Pourquoi? Parce que les champignons, les truffes, ils peuvent pas, ils ne poussent pas de la terre, ils poussent de la pourriture qui se de l'humidité. Donc, d'ailleurs, on fait pas bon répète un être sur ces produits-là. Parce qu'ils poussent pas de la terre elle-même. Cependant, même si on fait chez Acol sur le chocolat, mais la fève de chocolat, elle pousse sur l'arbre. Le café lui-même, au début de découverte du café, certains faisaient boré à être sur le café quand ils le buvaient. Et la même chose sur le chocolat. Bon, c'est rentré dans les mœurs de faire chez Acol pour toutes sortes de raisons de sa fake brara. Mais et même pas, c'est rentré dans les mœurs. Mais si quelqu'un y fait boréper un sur le café ou sur le chocolat, c'est à condition que le chocolat y soit en majorité et pas qu'il n'y ait pas trop de sucre dans ce chocolat, les chora, ils seraient quittes. On ne fait pas un cours de lacha, mais les chora, c'est ça ce que vient ajouter le deuxième kalash. Nous passons au septième principe. La généralisation qui est insuffisante et qui a besoin du cas particulier. Et le cas inverse. Klal atzarir l'ifrat, et on verra après, prat atzarir l'iklal. Exemple, le verset est dit, kadeshi kol bechor, peter kol rechem, tu dois sanctifier tout premier-né, ouverture de la matrice. Mais bnei Israël, les enfants d'Israël, les hommes, des animaux, il est à moi, dit Akadosh Baruch Hu. C'est à la fin de Parashat Bo, Kadeshi Kol Bechor. Dans ce verset, c'est l'ensemble qui est défini. Klal, quand il dit tous les premiers-nés, cela inclut les garçons comme les filles. Quand il dit tous les premiers-nés, alors c'est quoi le premier-né? Le premier-né, ça peut être un garçon ou une fille. Alors les filles, faut-il les racheter? Sont-ils tous les deux Bechor? Un autre verset dit, tout premier-né qui naîtra dans ton gros bétail, et dans ton menu bétail, à Zahar, le mâle, tu sanctifieras. Donc dans les animaux, c'est le mâle, Zahar. Le mâle précise que les premiers-nés filles sont exclus. Le prat vient réduire de ce verset. On pourrait aussi déduire que ceux qui viennent au monde par césarien doivent aussi être rachetés. Mais le premier verset les exclut. Ils disent « ouverture de la matrice, peter rehem ». Deux conditions doivent être remplies pour le rachat du premier-né, que ce soit un garçon, un mâle, et qu'il soit à l'ouverture de la matrice, Zaha ou Peter Rehem. Rashi explique que la généralité n'est comprise que grâce au cas particulier cité, et lui-même n'est compris que par la généralité. L'un sans l'autre, ils n'ont pas de sens, ou le sens est, et on peut se tromper sur le sens du principe. Deuxième exemple, Rashi donne l'exemple suivant. Le principe dit, dénombre tout premier-né mâle. Bekol kol zachar bimne Israël. S'il avait dit uniquement premier-né, j'aurais dit même les filles. Et s'il avait dit seulement zachar, j'aurais dit même ceux qui ne sont pas premier-nés. Donc là, quand on dit de dénombrer, dénombre tout premier-né, kalal. Et après, il a dit prat. Donc le prat, il est nécessaire pour que je puisse comprendre le zachar. Le clan, et inversement, comme Rachid l'a expliqué ici. Huitième principe. Si un cas est sorti ici, a priori, si on remarque bien, nous avons les sept, les midot arahamim, des 13 attributs de miséricorde qui sont placés sur le visage. Alors, les sept premières sont les deux sont sur la première partie du visage, ils sont en haut du visage. Alors il s'agit des pattes, des deux parties de la lèvre supérieure qui sont des deux côtés du petit passage, après le petit passage là qu'il y a au milieu, après ensuite en dessous de la lèvre inférieure il y a aussi identique. Donc dans la lèvre nous avons deux midotes, elles c'est les pattes qui sont au niveau des oreilles. Après rahom, c'est les deux côtés de la moustache. Après hanoun, c'est ce qui est en dessous, le petit renforcement qu'il y a sur la lèvre supérieure. Erer, c'est les deux côtés qui sont en dessous de la lèvre inférieure, à droite et à gauche. Et Erer Apaim, c'est là où il y a un petit peu de barbe en dessous, qui est la continuité du haut. Donc nous avons El, Rahum, Behanun, Erer Apaim 5. Rav Hesed. Donc la septième, c'est la sixième, c'est la mâchoire inférieure. Vehemet, c'est les pommettes. Après cela, nous avons la barbe au niveau du menton, nous avons ce qui va descendre vers le bas, ce qui est la barbe essentielle qui descend vers le bas, ce qu'on appelle Mazal HaKadisha, Notzer Hesed et Venake, qui sont les deux parties de la barbe dans l'épaisseur. Et là, à partir du huitième, nous passons à ce qui descend vers le bas. Et là, nous constatons que les midot de déduction commencent à différer un petit peu, comme nous allons le voir. Kol davar she'abichlal, toute chose qui était dans l'ensemble, ve'atzam inaklal, et qui est sortie de l'ensemble, pour enseigner, pour m'apprendre quelque chose. L'élamed, non l'élamed à la son yatsa, il n'est pas venu pour apprendre sur lui-même. Et là, l'élamed à la klal kulo yatsa, il est venu à enseigner sur l'ensemble de la généralité. Si un cas est sorti de l'ensemble dont il faisait partie, l'enseignement déduit s'applique à l'ensemble. Exemple. Donc en vérité, sans exemple, on ne comprend pas grand-chose. Celui qui transgresse par inadvertance, ça s'appelle Beshogeg. L'un des 39 travaux interdits le Shabbat. Doit-il apporter un sacrifice expiatoire, un hatat, pour être redevable de ce sacrifice? Il est impératif de connaître la notion de Shabbat, c'est-à-dire d'être conscient que certaines activités sont interdites le jour de Shabbat, sans pour autant connaître les détails. Exemple, savoir qu'aujourd'hui est un jour de Shabbat, mais oublier l'interdiction d'écrire ou de semer ou de moissonner ou de construire. Est-ce qu'on doit apporter un sacrifice? Doit-on apporter un sacrifice pour chacun des travaux que l'on transgresse? Ou faut-il transgresser tous les 39 travaux pour y être soumis? La Gemara demande, comment apprend-on que pour chacun des travaux, on doit un sacrifice? Alors il est dit dans le pasouk, vous ne ferez pas de feu dans vos maisons le jour de Shabbat. Donc il s'agit ici d'une transgression, le feu. Or la Torah n'a pas précisé les différents travaux interdits. Il n'y a pas marqué dans la Torah, tu ne laboureras pas, tu ne planteras pas, tu ne moissonneras pas. C'est marqué nulle part. C'est les 39 travaux, à part celui qui est mentionné, que nous venons de dire, sont déduits dans la Mishnah. On apprend ça de la juxtaposition de Parashat Vayakhel, que là-bas, il est dit, Elé Adévarim, voici les choses que vous n'avez pas le droit de faire Shabbat. Faut pas faire des travaux. Et juste après, il y a marqué construction du Mishkan. Nos maîtres ont dit que tout ce qui a été nécessaire à la construction du Mishkan est interdit de Shabbat. Donc les travaux sont ceux qui ont été nécessaires. Il y en a 39. Mais ça aussi, on l'apprend par transmission orale, comme nous l'avons dit. Nous les déduisons de comme nous l'avons dit. La précision au sujet du feu est nécessaire. Alors pourquoi la Torah l'a sorti Lama, kol davar she'abichlal. Donc il était, lui, ce travail-là d'allumer le feu, il faisait partie de tous les travaux interdits. Elle est à dévarer ma chère, tu vas Hachem. L'autre a assaut melacha. Il faut pas faire de travaux. Après, il dit, il faut pas faire du feu. Donc, il est sorti le feu pour apprendre sur lui ou apprendre sur tout. La précision au sujet du feu est nécessaire, demande la Gemara. Pourquoi en est-il sorti? Pour nous dire que de même que sur le feu, qui a un travail à part entière, c'est-à-dire qu'il était fait dans le Mishkan, et que si on, il appelait Av Melacha, sa transgression nécessite un korban si on le fait par inadvertance. Ainsi, pour chacun des autres 39 travaux, il suffit de faire un travail interdit pour être hayab. D'où on apprend du feu. C'est le principe de Rabbi Nathan, qui apprend de là, Hilouk Melachot, que sur une seule Melacha, c'est suffisant pour être hayab. Le Tosfot Ride, dans Maseret Shabbat, il précise ici quelque chose de très important pour comprendre le Hamek, la profondeur de ce texte. Tosfot Ride explique que l'exemple du feu est comme mis en facteur. Donc, on a un ensemble, qu'il s'agit des 39 travaux. On ne sait pas lesquels c'est. 39 travaux. Et dans cet ensemble, il y a tous les travaux qui sont mentionnés dans la Mishnah. Labourer, semer, etc. Le feu, il est mis en facteur. Et il se distribue. Il est en facteur, il se distribue à chacun des travaux. Comme si la Torah avait écrit explicitement, tu ne sèmeras pas, tu ne laboureras pas, tu ne cueilleras pas, etc. C'est comme si qu'il est en facteur. C'est ça le pshat, hilouk melachot, que nous enseigne Rabbi Nathan. Nous sommes au 9e principe. Kol shaya bichlal yatsa leakel. Si un cas particulier est sorti de l'ensemble, dont il faisait partie, pour un autre cas qui lui ressemble, c'est qu'il est sorti pour alléger et non pour aggraver. Alors, c'est quoi ce principe-là? Kol davar shaya bichlal. Kol davar shaya bichlal. Viatsa, et il est venu, il est sorti pour un cas qui lui ressemble, qui est au kinyano. Viatsa la kel velo lahmir. Il est venu pour alléger et non pas pour aggraver. Donc, pour le dire, la kula et pas pour aggraver. Il est dit, par exemple, il est dit, qui frappe un homme sera mis à mort. Maké ish va mettre. Alors, de quoi il s'agit? C'est général. Cela englobe aussi celui qui frappe volontairement que celui qui frappe par erreur. Tout celui qui frappe, alors il frappe, comment il frappe? Peu importe comment il frappe, il a frappé exprès, il a frappé par erreur, il a voulu lever la main, il a tapé quelqu'un, il sera hayab. Cependant, il est dit, celui qui vient avec son prochain dans la forêt pour couper, quitte à vos, il est venu couper le bois dans la forêt. Il brandit la hache pour couper le bois et le faire glisse et tombe sur la tête du type qui passe. Donc, il est, celui qui a tué par inadvertance, il est hayab galous. Il devra aller se réfugier en ville de refuge. Donc, c'est le prat. De ce cas, de cet exemple-là, particulier, est sorti de la généralité pour alléger, non pas pour aggraver. C'est-à-dire qu'on a dit, celui qui frappe, il est hayab mita. Comment tu as frappé? On ne sait pas comment tu as frappé. Peu importe comment tu as frappé, il est passible de mort. Puis la Torah, elle a marqué un cas que s'il a tapé par inadvertance, sans le vouloir, donc il va en galoute. Et donc c'est venu pour l'alléger. Ce cas particulier est sorti de sa généralité pour alléger, non pas pour aggraver. Dans ce cas, le meurtrier doit fuir dans la ville de refuge et il n'est pas passible de mort. C'est ça ce que nous venons d'apprendre. 10e principe. Le cas particulier est sorti de l'ensemble dont il faisait partie pour un cas qui lui est différent. Il sort pour aggraver et aussi comme pour alléger. Ça s'applique les deux, les akel ou l'ahmir. Il est dit, « V'chol davar shaya bichlal, v'yatsa lit'an ta'un aher shelo kenyanu. » Donc il faisait partie de l'ensemble. Il est sorti de l'ensemble pour un cas qui n'est pas, est totalement identique. Yatsal et Anta en arrière, qui n'est pas identique. Yatsal et Akelou l'Armir. Il est venu pour aggraver comme pour alléger. Que dit-il? Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 ans et la 7e année, il sera libre. Donc, qui t'y knev et d'ivri, chéchéni, mais avod bachivé, et t'sais la hofchéhina. Il est dit, si ton frère t'est vendu qui m'a fait ou à Ivria, il t'est vendu à un esclave qui est ton frère. תפסור, שש שנים יעבוד, ובשבית יצא לחופשי. Dans ces deux cas, on a généralisé le cas de l'esclave à l'homme et à la femme. Donc a priori, la même loi s'applique sur les deux. Ça c'est clair. Puis vient un verset particulier pour la servante. Si un homme vend sa fille comme servante, elle ne sortira pas comme les esclaves. L'autre est que c'est à avadi. Prat, ce prat-là, donc ça veut dire qu'on a pris le cas de la servante et on l'a sorti de la généralité. Prat yatsam et aklal. Pourquoi la servante est sortie de la généralité? Pour nous apprendre une loi qui ne concerne qu'elle et pas l'esclave mâle. L'élamed, c'est ce qu'on dit, l'élamed à l'atmo, il est venu pour lui-même. Elle retrouve sa liberté par les signes de puberté, et ça, l'esclave mâle n'a pas ce dîne-là. De plus, si son maître meurt, elle ne passe pas au service du fils, ni d'aucun autre héritier. Ces deux précisions allègent, pour le cas de la servante, Léakel. Ça, c'est Léakel. En quoi et comment ce cas est aggravé? L'Ahmir, comment? Quetzal, l'Ahmir. Le maître peut la prendre pour épouse ou la donner à son fils en mariage sans son consentement. Il est suffisant qu'elle en soit informée, mais son approbation n'est pas nécessaire, comme dit Rashi dans la Boraïta des Midot de Rabbi Ishmael et dans le traité Kiddushin à la page 19. Rav Nachman Bar Yitzhak dit qu'il est nécessaire pour le mariage que ce soit Midahata, il faut qu'elle accepte. De même, selon Rambam, il semble qu'il faille son consentement. Ilchot Avadim au chapitre 4. Cependant, selon Rashi et Tosafot, au nom de Rabbi Yotam, il est clair que l'obligation est simplement de l'en enfermer. Il faut qu'elle sache qu'on va la marier. Il ne s'agit aucunement de recueillir son accord. Alors, dans ça, il y a un mahloket aussi entre le Rashba et le Ritva dans Kinoshim, qui eux, ils tranchent comme Rabbi Yotam et pas comme Rambam. Onzième principe. Le cas particulier qui est sorti de son ensemble pour en déduire une nouveauté, on ne peut le réintégrer dans le verset, le premier verset. Il faut que la Torah le précise. Kol davar she'a bichlal, tout ce qui était dans l'ensemble. Ve'atza minakla, il est sorti du clan. Pourquoi faire? Pour qu'on apprenne quelque chose. Pour apprendre la hidouche. Il faut que la Torah, il y a un passage qui vient, qui le réintègre. Il est dit, exemple, si un Kohen achète un esclave, un homme, il lui aussi mangera de la trouma. Donc l'esclave du Kohen, il mange de la trouma. Tous ceux qui voient le jour dans la maison du Kohen, ils mangeront de la trouma. Ils mangeront de son pain. Donc tous, c'est clair. Le verset a généralisé l'autorisation de consommer de la trouma à tous ceux qui naissent dans sa maison, ses garçons, ses filles et ses esclaves. A priori, toutes ses filles en mangent, même celles qui sont mariées à un non-Cohen. Mais le verset suivant ajoute une précision. La fille de Cohen, qui sera mariée à un non-Cohen, ne mangera pas des prélèvements saints. Cette femme ne peut plus consommer de trouma dès qu'elle est mariée. Elle est exclue de la règle de l'ensemble, il y a Tsaminakla. Mais non, est-ce que je peux la faire réintégrer cette fille-là? Quelle est la loi si elle divorce ou son mari décède? Peut-elle en consommer à nouveau? Elle revient habiter dans la maison de son père. Alors, elle s'est mariée, le mari il est nifta. Alors, elle retourne chez son père, la pauvre. C'est une veuve qui est fille de Cohen. Est-ce qu'elle peut manger de la trouma? Pour que la fille de Cohen réintègre l'ensemble de ceux qui consomment la trouma dans la maison de son père, il est obligatoire que la Torah le précise. Et c'est ce qui est fait dans Vaïkra. Le verset dit que la fille de Cohen divorcée ou veuve sans descendance retournera à la maison de son père comme du temps de sa jeunesse et mangera de la trouma. Akatov erzera befirouche. Alors ça veut dire qu'elle a la condition, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Nous sommes arrivés au principe, nous avons conclu le principe 11, et nous poursuivrons Bezrat Hashem plus tard. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.